Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans cette édition du carnet de région de l'actualité et les temps forts de l'actualité de cette semaine avec vos radios. Dans l'Aude, 14 morts, c'est le tout dernier bilan des pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche dernier, dimanche 14 octobre au lundi 15 octobre. Après le chaos, place à la solidarité qui se met en place. Le mois octobre rose, nous en parlerons également avec nos confrères de Radio Grille Ouverte. Lutter contre l'habitat indigne et marchand de sommeil avec le dispositif permis de louer, ce sera un sujet de Radio Pays d'Hérault. Le tourisme, il en sera question aussi dans ce carnet de région, les précisions de Ludovic Terrol de 48 FM. Un projet de coopération décentralisée entre un village du Mali et le Vigan. C'est Radio Escapade qui nous le présentera. La pension de famille, une association à découvrir avec Radio Lodève. Et pour finir, le 7e art à l'honneur avec la 40e édition du Cinémed. C'est le carnet de région de l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Bienvenue. Les violentes précipitations qui se sont abattues sur l'Aude et a provoqué de graves inondations dans la nuit de dimanche dernier, dimanche 14 octobre à lundi 15 octobre, ont fait à ce jour 14 morts pour le tout dernier bilan provisoire. Il est tombé en 6 heures, l'équivalent de 3 mois de pluie par endroit. Plus de 70 communes sont aujourd'hui touchées. Place maintenant à la solidarité qui s'organise au fur et à mesure et au fil de ces jours. Christophe Castaner, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, a annoncé d'ailleurs la mise en place d'aides d'urgence en faveur des sinistrés les plus touchés par ces inondations. Je cite, « Il nous faut mobiliser pour aider tous ceux qui ont tout perdu. Le gouvernement mobilisera les moyens d'intervention sociale pour que chaque adulte, chaque enfant soit aidé à la hauteur et dans les heures qui viennent de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant », a-t-il déclaré au Sénat lors des questions au gouvernement. C'était mercredi dernier. Pierre Bardiès, il est 5e vice-président du conseil départemental de l'Aude en charge des routes.
Ce que je voulais dire simplement, c'était qu'effectivement, il y a la solidarité des départements, la solidarité des personnes, tout ce qui peut se manifester à travers soit des votes de subvention, soit à travers la solidarité. Ce dont on a besoin aujourd'hui et dans les jours qui viennent, c'est de la solidarité nationale. Mmh. S'il n'y a pas un geste très fort de l'État dans cette démarche, nous ne pourrons pas remettre le département en ordre. Dès lundi, en session, nous voterons des aides exceptionnelles pour reconstruire les routes, les ponts et tout ce qui a été impacté par cet épisode. Mais on a besoin, bien sûr, de la solidarité des personnes et de tout ce qui peuvent apporter leur appui, mais on a besoin d'un geste fort et de la solidarité nationale pour nous permettre d'aller plus loin. Donc moi, j'en appelle à l'État aujourd'hui pour qu'il puisse conforter notre démarche. La solidarité locale et tout ce qu'on entend avec vos témoignages est très forte, on le sait.
Pierre Bardiès, 5e vice-président du conseil départemental de l'Aude en charge des routes. Et je vous rappelle le tout dernier bilan et qui est provisoire. 14 morts suite aux dernières inondations du département de l'Aude. Depuis maintenant 7 ans, le comité féminin du Gard pour la prévention et le dépistage des cancers, la Ligue contre le cancer du Gard et de nombreuses associations des quartiers politiques de la ville d'Alès initient une démarche savoir à renforcer le recours au dépistage organisé du cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes. Un travail qui porte ses fruits, surtout auprès des populations pour qui le corps reste tabou. Ricardo Dominguez, il est le coordinateur de la Ligue contre le cancer qui intervient auprès des femmes du quartier des Prés de Saint-Jean-d'Alès.
Il y a 40% des cancers, notamment les cancers du sein, qui sont dus à notre comportement. Le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'obésité, les rayons UV, etc. Et il y a aussi des cancers qui sont dus à nos gènes, des cancers qui sont liés principalement à l'âge et certains qui sont liés au hasard malheureusement. Mais donc ça veut dire quand même que 4 cancers sur 10 au minimum pourraient être évités juste en changeant nos comportements. Aujourd'hui c'est notamment un atelier pour promouvoir le dépistage des cancers. On est dans la campagne Octobre Rose qui est le mois finalement dédié à la promotion et au dépistage. Et ce que je les invite à faire, c'est à réfléchir sur les différentes méthodes de dépistage, que ce soit la mammographie dans le cadre du dépistage organisé ou alors un suivi individuel, voire les palpations. Voilà, tout est bon à partir du moment où elles peuvent prendre soin d'elles.
Alors, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une réticence au niveau de la mammographie. Alors qu'il y en avait une il y a encore 2-3 ans où ça, on a peur du résultat, ça fait mal.
Il y a encore beaucoup de réticence. Ici, le groupe n'a pas montré, mais c'est vrai que cette question-là de la douleur, eh ben oui, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas douloureux, mais qui n'est pas agréable, ça c'est clair. mais c'est un mauvais passage et qui permet de dépister des cancers beaucoup plus tôt et dans le meilleur des cas de pouvoir guérir 9 cancers sur 10.
Avec le recul, Octobre Rose, est-ce que c'est positif pour la population? Est-ce que le nombre de dépistages augmente?
En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Donc, oui, c'est ce qu'on va continuer. Et chaque année, on continue à faire cet effort-là parce que ben, mobiliser la population, c'est aussi les informer et leur laisser le choix de pouvoir se dépister, de pouvoir savoir avant pour mieux guérir.
Alors, qu'ont retenu les participantes à cet atelier d'information? On écoute l'une d'entre elles.
J'ai retenu, il faut se préserver, se contrôler tous les 2 ans. Et si le hasard, il a fait les choses et la personne a eu cette mauvaise surprise, il faut se soigner, parce qu'il y a 9 sur 10 de guérison. Et la médecine, elle a évolué. Il ne faut pas se bloquer, se renfermer sur elle-même. Il faut avancer, se soigner.
Vous suivez, vous?
Oui, tous les 2 ans, frottis, mammographie, oui.
Et là, vous êtes en train de faire quoi, alors?
Donner des conseils à nos sœurs race, de toute région. Il faut se faire soigner, se faire contrôler et sans avoir peur.
Qu'est-ce que vous avez écrit, vous?
Même pas peur, et j'ai écrit en arabe, c'est Hakins. La santé, c'est un trésor.
Dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié au dépistage du cancer du sein, les associations organisatrices vous invitent au Village Rose, place des Martyrs de la Résistance, ce samedi 20 octobre de 14h à 17h avec des ateliers artistiques, mais aussi des animations musicales et des stands d'information par des professionnels de santé. C'était un sujet de Cathy Reverol de Radio Grille Ouverte. La loi Allure 2014 permet aux communautés de communes de lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil avec le fameux dispositif permis de louer. En France, il y a 400 000 logements considérés comme indignes et le département de l'Hérault n'y échappe pas. Certaines communautés de communes commencent à mettre en place ce dispositif. À l'agglo de Béziers Méditerranée, le dispositif est entré en vigueur en juillet 2018. La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, sur le territoire du Picénois et Agathois, se lance aussi à son tour. Stéphane Pépin-Bonnet est vice-président à l'agglo chargé de l'habitat.
Il y a quelques mois, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a décidé de tester ce dispositif sur les communes d'Agde et de Pézenas, avec d'abord un délai d'instruction qui va permettre d'attendre, en tout cas de lancer ce dispositif au mois de juin 2019 environ. Le permis de louer, c'est quoi? Il y a des propriétaires dans les centres anciens, donc notamment d'Agde et de Pézenas, qui louent quelquefois des maisons, des appartements qui ne sont pas dignes d'être loués. Donc au moment du départ d'un locataire, le propriétaire aura, le bailleur, aura l'obligation de déclarer son logement. Et c'est à partir de là qu'il y aura un contrôle où on vérifiera que les conditions de vie, d'hygiène et de sécurité sont remplies. Il faudra donc obtenir ce permis de louer pour pouvoir relouer le logement, ce qui va permettre avec ce dispositif d'aider un petit peu les marchands de sommeil qui en profitent et qui font quelquefois des basses affaires sur des gens qui ont besoin de trouver un logement. Et ça améliorera la qualité de vie des locataires. Tout simplement, ce sont des secteurs qui sont déjà prédéfinis dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, puisqu'il y a un dispositif qui s'appelle Objectif Rénov et qui permet d'obtenir des aides sur ces différents périmètres. Donc c'est principalement les centres anciens, c'est là où on trouve le plus de logements qui est dégradé. Et vraiment, le principe, c'est de l'étendre à terme d'ici 1 ou 2 ans à l'ensemble des 20 communes de la communauté d'agglomération. Nous savons de toute façon qu'il y en a, mais aujourd'hui, comme les personnes ne déclarent pas ces logements, c'est très difficile d'avoir un chiffre. Mais toutes les communes, hein, il n'y a pas qu'Agde et Pézenas, tous les centres anciens sont voués à mettre en place ce dispositif qui commence à se développer sur la France entière. Nos voisins bitérois sont en train de le mettre également en place et on va aussi l'ajuster et voir comment le développer en choisissant les bons périmètres pour chaque commune. Obligatoirement, il y aura un contrôle puisque ce permis, c'est comme un permis de conduire. Pour conduire, vous avez l'obligation de passer un examen. Ben là, l'examen, ça sera le contrôle de l'habitation qui va déterminer si ce logement est apte ou pas à être loué.
Stéphane Pépin-Bonnet, vice-président de l'agglo chargé de l'habitat, était au micro de Clémentine Marsay de Radio Pays d'Hérault. Ce lundi, le BTS Tourisme du lycée Chaptal de Mende en Lozère organisait un événement professionnel intitulé la journée des métiers du tourisme, l'occasion de faire revenir d'anciens étudiants travaillant dans ce secteur aujourd'hui afin de les confronter aux élèves, futurs professionnels donc. Pour le carnet de région, Ludovic Terol de 48 FM s'est bien sûr rendu sur place.
C'est dans la chapelle du lycée, nouvellement rénovée, qu'anciens et nouveaux élèves du BTS Tourisme du lycée Chaptal se sont retrouvés afin de partager leurs expériences. James Audamé, professeur coordinateur du BTS Tourisme à Mende, à l'initiative du projet.
L'objectif, c'est que les étudiants, que ce soit en première année ou deuxième année, puissent cerner réellement les contours des métiers du tourisme. Donc on a voulu faire une orientation qui soit réellement axée sur un contenu, sur les qualités qu'il faut, sur le parcours professionnel, sur le partage d'expérience, au-delà de la connaissance du secteur touristique et des connaissances du milieu. Voilà, on est vraiment axé sur la partie métier.
Et parmi les anciens élèves, Delphine Aigouy, actuelle directrice de la centrale de réservation des Gîtes de France du Gard, est venue expliquer qu'avec de la volonté, tout est possible.
Plaisir de revenir sur mon parcours, qui est quand même différent de chacun. Dans notre promo, on n'est plus tous dans le tourisme et on est quelques-uns. Et c'est vrai que ça fait plaisir de continuer dans le tourisme et de montrer que c'est possible de devenir directeur rapidement, quoi. Tout est possible. Ils vont rencontrer plein de choses, de toute façon, durant leur stage, durant leur début de vie professionnelle, et de toujours croire en soi. Avoir confiance en soi, c'est important, et continuer tout ce qu'on aime.
Une journée riche pour Célia en seconde année du BTS Tourisme.
On a appris beaucoup de choses, donc notamment vis-à-vis des métiers, des intervenants. Et on a appris les clés, entre guillemets, pour travailler, bien sûr, dans le tourisme. Vu qu'on est des futurs professionnels, on sait comment il faut se comporter. Ils apportent beaucoup. Ben déjà, ils apportent leur expérience. Même si nos profs ont, eux aussi, l'expérience, ils ont été à notre place, en fait. Donc, ils racontent leur histoire et on peut mieux se projeter, nous, dans notre avenir et apprendre les clés qu'il va nous falloir pour décrocher les jobs qu'on veut, quoi.
En Lozère ou ailleurs, l'essentiel, d'après Florence Gély, proviseur, est qu'à la sortie de leurs études, les étudiants puissent prendre des initiatives.
Je pense qu'il y a des choses à développer en Lozère, mais comme partout pareil, ça dépend toujours des initiatives des forces vives qu'il y a dans le département. Donc là, les BTS ont vu aujourd'hui qu'il y avait des jeunes qui avaient su prendre le relais, qui se sont exportés, et d'autres qui sont restés et qui ont su développer le côté touristique du département. Donc tout dépend des initiatives, mais effectivement tout est possible, il faut juste montrer que c'est possible. Et là aujourd'hui, il y a eu, avec la qualité des intervenantes, on a vu que oui, avec un petit peu d'imagination et de la ténacité surtout, on arrive à mettre en place de beaux projets.
Et cette première édition devrait en appeler d'autres. Cette journée des métiers du tourisme pourrait s'étoffer avec la possible venue de tour opérateurs ou d'entreprises d'envergure plus grande.
Le carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Un projet singulier de coopération internationale unit les communes du Vigan et de Pelmédoué au Mali. Djengue Na, un projet source d'espoir, c'est le nom de cette coopération axée sur la gestion durable de l'eau. À cette heure, 4 puits et un système d'adduction d'eau ont déjà été construits et bénéficient à la population de cette commune du pays de Dogon. Toute cette semaine, le maire de Pelmédoué, accompagné de deux autres représentants du projet, sont venus en visite au Vigan pour informer, rencontrer la population sur ces fameuses réalisations. Cette visite a été également un moment fort d'échange culturel entre Sevenol et Dogon. Cela d'autant plus que la région dont vient la délégation s'est retrouvée classée en zone rouge il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il est interdit de s'y rendre pour des Occidentaux sous crainte d'enlèvement ou même d'attentat de la part des milices armées. Rencontre avec le maire de Pelmédoué et Yvette Payère, une des initiatrices de ce projet de solidarité.
Bonjour, je m'appelle Ansama Robert Togo, le maire de Pelmédoué au Mali, dans la région de Mopti, précisément dans le cercle de Kourou. Une commune de 17 384 habitants.
Et alors là, l'objectif de cette semaine, c'est ça, de visite en France, quel était l'objectif pour vous ?
Et dans le cadre de la coopération décentralisée avec la commune de Vigan, et elle a vu que le jour à la signature, que le 17 février 2014, l'élaboration d'un gros volume de documents sur l'eau, hygiène, assainissement et la sécurité alimentaire. C'est bien ça. Et nous avons fait ensemble la signature de la convention le 17 février 2017 à Bamako. Et le maire a été représenté par Yvette de payeur qui est là à côté de moi et qui se bat bien pour l'exécution de ce programme.
Ouais, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, passionnant, même hier dans la présentation, c'est que c'est un des projets, comme vous dites, décentralisés, donc avec les objectifs sont définis par les villageois, par vous et les conseils, et même les moyens mis en œuvre, la main-d'œuvre sur place, oui. C'est pas un projet qui est amené de l'extérieur complètement, qui pourrait être décalé avec les besoins.
Oui, oui, c'est carrément différent des autres ONG qui apportent leur projet. Et là, la population se sent très concernée. Et chacun connaît ses besoins. Donc, et à partir du nombre de puits par village traditionnel, et tel nombre de villages à tel nombre de puits, par rapport à la population exactement, effectivement. Et là, les villages environnants aussi viennent les aider en main d'œuvre, en apport poulet, chèvres, moutons, pour l'alimentation. Ça, c'est très, très important, parce que hier, je ne l'ai pas évoqué, mais les villages environnants prennent peut-être 10 à 15 jours de travaux.
Parce que ça va être bénéfique pour eux aussi, ce projet ?
C'est très bénéfique, parce que l'eau, on sait qu'elle est vitale. Donc,
On parlait là des prises de décision collectives, vraiment des besoins locaux. Ça a été accentué, tu le disais hier, par le fait que la région soit classée en zone rouge, ce qui interdisait la venue d'Européens dans la région. Ces dangers qui sont annoncés tels quels, est-ce que vous les vivez vraiment ?
Bon, ça nous gêne qu'on nous dise qu'on est en zone rouge, parce que ça freine beaucoup d'activités. Sur le terrain, si on s'y met avec la population, on y arrive. Parce que pour l'exécution des travaux, on fait recours aux entrepreneurs locaux qui sont sur place, qui connaissent le terrain. Et ça nous fait mal que nos amis de Vigan n'arrivent pas à venir visiter les réalisations qui se passent.
Et vous pensez que d'autres projets comme celui-ci pourraient voir le jour dans d'autres villages peut-être, ou devraient, enfin, que c'est une belle expérience à...
C'est mon souhait, qu'ils soient intégrés avec la population, en concert avec la population, ça peut très bien marcher. Mais il ne faut pas qu'ils viennent... implanter, après ressortir, sans concerter les villageois, la population, pour dire que bon, nous on est venus, on investit, et après leur départ, c'est fini. Alors que là, ça les appartient, ils forment des comités de points de gestion d'eau, il y a aussi le comité de gestion communale de l'eau qu'on a mis en place et qui fonctionne avec les différents comités des villages. Et je pense que ça doit bien marcher.
Alors, je me tourne vers toi maintenant, Yvette, sur le fait justement de concerter avec la population, de pas vouloir imposer des choix.
Oui, premièrement, en fait, le Vigan, c'est pas une association qui travaille avec la commune de Pelmaoundé. C'est un projet très, très spécifique de coopération décentralisée. Quand on parle de coopération décentralisée, c'est-à-dire c'est l'union de deux communes, une de France qui a signé une convention avec une commune du sud, là en l'occurrence c'est la commune de Pelmaoundé. Ce qui m'a poussé à me lancer dans un projet de coopération décentralisée comme celui-ci et à convaincre l'ensemble du conseil municipal du Vigan de foncer sur ce genre de projet, c'est justement, je pense, mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu avant, c'est-à-dire ces projets qui sont finalement écrits dans des bureaux bien climatisés, etc., et qui ne correspondent absolument pas à la réalité du terrain. Donc voilà. Et voilà, ensemble, en fait, on a une super équipe qui fonctionne très bien et ça prouve que, quelles que soient les conditions, et c'est vrai, comme disait Monsieur le maire, c'est frustrant d'entendre toujours parler de la zone rouge, quelles que soient les conditions, voilà, on a vraiment envie de progresser ensemble. Toutes les communes françaises pourraient se lancer dans ce genre de coopération, de solidarité internationale, parce qu'il existe une loi qui s'appelle la loi Houdin-Santini, qui nous permet de mettre 1% maximum de notre budget de l'eau au bénéfice de projets de coopération, de solidarité internationale, de coopération décentralisée. C'est pas grand-chose, mais ça peut être beaucoup déjà, parce que c'est le prix d'une borne fontaine, par exemple. Mais 2200 euros aussi, ça nous a permis de lever des fonds super importants, parce qu'en fait, on se porte garant de la commune de Pelmaoundé quand on fait ce geste, et donc garant aux yeux des bailleurs de fonds. Et grâce à ces 1%, par exemple, Bon, on a obtenu des sommes assez importantes du ministère des Affaires étrangères, 85 000 euros, et 183 000 euros de l'agence de l'eau. Et c'est possible de le faire, voilà. Et moi, ça, pour ça, c'est presque un appel. Je dis, allez-y, mobilisez-vous. Et les structures qui ont de l'argent et des financements, faites confiance aux gens qui sont sur place, parce qu'il y a vraiment des compétences sur place, voilà.
Je vais donner le mot de la fin à Monsieur le maire.
Mon mot de fin, c'est un grand, grand remerciement à la population de Vigan. Vraiment, je les encourage beaucoup. Je leur dis un très grand merci au nom de la population de la commune de Pelle et du Mali. Je ne veux pas qu'on nous lâche à cause de la zone rouge. Il y a des possibilités de réussir les activités. Donc, si on nous lâche, ça veut dire qu'on donne le terrain aux djihadistes.
On leur donne raison.
Voilà, on leur donnera raison comme ça. Donc, je pense que ce qu'on a commencé, je souhaite que ça continue. Un grand, grand merci. Un très grand merci. Yapo, yapo, yagana.
Yapo,
yagana. Anitié, voilà.
C'était un sujet de nos confrères de Radio Escapade. Ce vendredi matin, la pension de famille de l'Adage, ouverte depuis le mois de mai dernier, a été inaugurée à l'ODEV. Son coordinateur, Guillaume Mazeuillet, nous présente cette association de l'Adage et cette pension de famille au micro de Damien Santès de Radio l'ODEV.
L'Adage, c'est une grosse association départementale qui est reconnue d'utilité publique et qui travaille sur tout le champ du médico-social et du social. Donc c'est une association qui regroupe entre 1000 et 1500 salariés. Alors il y avait eu la charte territoriale de cohésion sociale qui avait repéré ce manque sur le territoire, et donc l'Adage avait été interpellé pour monter des pensions de famille à la fois donc sur le pays du Cœur d'Hérault et à la même époque d'ailleurs sur le pays de Lunel aussi. Et donc, quelques années plus tard, on avait une structure qui était sur Pôlan. Et c'est la mairie de l'ODEV qui est venue nous chercher pour nous demander que cette structure se fasse sur l'ODEV. Alors, une pension de famille, c'est une structure qui est un petit peu à la frontière de l'hébergement et du logement, qui a été inspirée dans les années 97 par l'abbé Pierre et Xavier Manuelli, créateur du SAMU social à Paris. Et c'est vraiment l'idée de regrouper des petits logements entièrement équipés autour de parties communes sur lesquelles on va pouvoir avoir tout un travail autour de la convivialité, de la chaleur humaine, et surtout donc ne pas se sentir seul. Dans une pension de famille, l'idée première, c'est de rompre avec l'isolement. Et donc sur place, il y a deux personnes qui vont animer, faire vivre cette pension de famille. Elles ont l'immense tâche de d'impulser la convivialité, la chaleur humaine. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a des personnes qui sont des victimes de l'isolement, qui se retrouvent seule chez elle, en connaissant personne. Et alors, pour nous qui avons tous des réseaux, des familles, et qui fréquentons du monde, il y a des personnes qui n'ont personne autour d'elles. Ça, on a du mal à se le représenter. Et l'idée de la pension de famille, c'est vraiment de répondre à cet isolement-là, que les personnes ne se sentent pas seules, qu'elles ne soient pas seules dans leur logement, et que quand elles sortent de leur logement, elles puissent dire bonjour à des gens qu'elles connaissent et avec qui elles recommencent à tisser des liens. Ce qu'on dit souvent aux services orientateurs, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Effectivement, il y a l'isolement, effectivement, c'est des personnes qui ont eu des parcours de vie un petit peu difficiles, qui ont peut-être un vieillissement prématuré. Par contre, nous, on est très sensibles à l'idée qu'il y aurait on va manager presque une équipe, qu'on va essayer d'équilibrer un petit peu toutes ces personnes entre elles en fonction des problématiques qu'elles peuvent avoir avec elles, et pour pas qu'on se retrouve ensuite dans des extrémités difficiles à gérer.
Actuellement, 18 personnes sont installées dans cette pension qui peut en accueillir jusqu'à 24. Elle devrait être pleine d'ici 2 mois. Merci à Damien Santès de Radio l'ODEV. Allez, c'est parti, direction le 7e art maintenant avec du cinéma, avec la 40e édition du Cinémet qui s'ouvre à Montpellier. Quel programme, quel temps fort, tous les détails avec notre spécialiste cinéma, Eliane Olivares.
Clotilde Courau, qui est l'invitée d'honneur, et puis on a tous les Guédiguians. Alors il était déjà là l'année dernière, mais là il revient en force avec son épouse évidemment. Nous avons Pierre Salvadori, nous avons Cairon, Pio Marmaille, Simon Abkarian, que j'aime beaucoup, Anaïs de Moustier, enfin, il y a beaucoup de monde. Hein. Pour les cinéphiles, à ne pas rater, vous avez vraiment pléthore de films, les chefs-d'œuvre du cinéma méditerranéen avec, vous aurez Torrescola, du Buñuel, bon, il n'est pas italien, mais c'est pas grave. Letaviani, Bertolucci, Visconti, Antonioni, Fellini, Pasolini, Rizzi, Monicelli, vous imaginez, tout ça en y évidemment. Mais c'est des films à ne pas rater, quoi. Quand on les a pas vus ou quand on les a vus étant jeune, on peut les revoir. C'est vraiment un moment à ne pas rater.
Du coup, les temps forts pour cette 40e édition.
Les prestations, enfin le palmarès qui sera à donner. Alors nous avons 17 longs métrages en compétition. Les cours, évidemment, c'est très difficile de les compter parce qu'ils passent par 6, je crois, en une heure, il y en a à peu près 6. Et puis vous avez 8 documentaires, vous avez des avant-premières, vous avez, il y a 14 avant-premières, là, énorme. Les 14 avant-premières, c'est vraiment énorme. Et puis tout le reste, hein. Vous avez plein de... Il y a les cinémas panorama, il y a beaucoup de choses. Vraiment, je crois que Christophe Leparc et ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul, évidemment, se démènent tous les ans, puis 40 ans, ça se fête.
C'est avec le 7e art que se conclut ce carnet de région avec le Festival Cinémed qui s'ouvre, le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Et c'est déjà la fin de ce carnet de région. Merci aux radios qui ont contribué à l'élaboration de ce magazine d'information. Merci aux autres également de sa diffusion. Prochain rendez-vous avec ce magazine d'information, c'est bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, toutes et tous, passez un excellent et très bon week-end, très belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'était le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.